Bonjour Tiphaine, aujourd'hui pour notre quatrième et dernier épisode, nous continuons à interroger la postérité du divin marquis.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donatien Alphonse François de Sade est né en 1740 dans une famille de la noblesse française et a vécu jusqu'à l'âge de 74 ans, ce qui n'est pas une mince performance quand on connaît les conditions de cette vie, dont 27 années furent passées derrière des murs de prison ou d'asile d'aliénés. Il était un homme comme les autres, davantage qu'on ne l'a dit, un modéré, y compris en politique. C'est en tout cas ainsi que le présente Stéphanie Genant dans sa biographie qui vient de paraître dans la collection Folio et dont elle est venue nous parler lundi. Et puis mardi, nous avons évoqué l'inscription de Sade dans le siècle des Lumières, sa manière de concevoir l'amour, ainsi que certaines de ses œuvres. C'est l'historien Michel Delon qui est venu pour cela. Et enfin hier, c'est de Sade et les femmes dont il a été question avec Florence Lautry et Cécile Guilbert. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour évoquer la lecture que les intellectuels ont fait de Sade au XXe siècle, nous sommes avec Éric Marty, romancier, essayiste, universitaire, éditeur des œuvres complètes de Roland Barthes aux éditions du Seuil. Il a également posé, dans un livre paru en 2011, la question qui va nous intéresser aujourd'hui. Pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sade au sérieux? C'était dans un livre de la collection Fiction et compagnie des éditions du Seuil. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Il me semble que l'heure soit venue pour ces idées qui ont mûri dans l'atmosphère infâme des enfers des bibliothèques, et cet homme qui parut ne compter pour rien durant le XIXe pourrait bien dominer le XXe siècle. Le marquis de Sade, cet esprit le plus libre qui ait encore existé, avait aussi sur la femme des idées particulières et la voulait aussi libre que l'homme. Justine, c'est l'ancienne femme, asservie, misérable et moins qu'humaine. Juliette, au contraire, représente la femme nouvelle qu'il entrevoyait, un être dont on n'a pas encore idée, qui aurait des ailes et qui renouvellerait l'univers.
Extrait de l'œuvre du marquis de Sade d'Apollinaire, lu ici par Zoé Varié. Apollinaire qui a été l'un des premiers au XXe siècle à redécouvrir cet auteur. Bonjour Éric Marty.
Bonjour.
Vous vous êtes donc intéressé à la lecture qu'on a fait de Sade au XXe siècle. Vous avez donc enjambé le XIXe précisément parce que c'est un siècle durant lequel on n'a pas tellement lu Sade, on ne s'est pas tellement intéressé à lui.
Alors en fait, on l'a lu mais en cachette, si j'ose dire. Alors, en fait, tout le monde l'a lu à ce moment-là, aussi bien Chateaubriand, Stendhal, Balzac. On pourrait dire Balzac au travers du prisme de Sade, tant qu'il y a une influence, par exemple, l'histoire des 13, qui comprend Ferragus, les yeux de Langeais, ou la fille aux yeux d'or, qui suppose une sorte de complot d'aristocrates, d'élite, et qui sont gouvernés par leur seule jouissance, est une réplique totale de la l'association des amis du crime de Sade. Enfin, alors bon, il y a Flaubert, l'a lu abondamment, les Goncourt l'ont lu.
On le lit donc sous le manteau. Bah,
on le lit sous le manteau parce que d'abord on n'a pas à sa disposition l'œuvre complète de Sade. On a essentiellement des publications, soit des originales, soit des publication clandestine, donc c'est pas non plus très facile. Baudelaire, le grand lecteur de Sade, hein, Sade supérieur à Le Sand, enfin, contre le progressisme, Sade apparaît, contre le progressisme de gauche, contre l'humanisme de gauche de Georges Sand, Sade apparaît le modèle, le vecteur, justement, d'une vraie subversion très baudelairienne, et Baudelaire est complètement sadien, donc il y a une lecture, il y a une imprégation de Sade, mais je crois qu'on n'ose pas précisément complètement le prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'il y a quand même la dimension extravagante, la dimension fantasmagorique de Sade, interdit en réalité d'afficher. Et puis, il y a un côté, les gens du 19e sont quand même aussi des petits bourgeois. Flaubert lit Sade, il se repaît de Sade, mais il le lit avec, en riant, avec une sorte de rire un peu, ce rire enfantin de Flaubert, un peu adolescent, qui fait qu'il n'assume pas complètement sa fascination.
En fait, c'est plus le sadisme qui intéresse que Sade lui-même.
C'est ça. C'est le sadisme qui intéresse. C'est le personnage de Sade peut intéresser, effectivement, mais en réalité, il y a vraiment une absence d'audace, peut-être, du 19e siècle à prendre Sade au sérieux. Donc, on le lit dans une sorte de fascination. On le lit en cachette, encore une fois. On le lit dans le côté enfer de la bibliothèque. C'est ça, c'est l'enfer. Et alors que le XXe siècle, lui, le placera dans une lecture beaucoup plus commune et, je dirais, ordinaire et sans cette dimension de profanation, d'excitation, de côté religieux, au fond, que les écrivains du XIXe. Actuellement, je travaille sur Chateaubriand. Je suis assez aussi étonné par une présence souterraine de ça dans la manière dont Chateaubriand, par exemple, traite de la Révolution française, avec ses figures de décapitation, ses caricatures monstrueuses des révolutionnaires. Il est évident qu'il a lu ça, et c'est attesté par tous les spécialistes de Chateaubriand, d'ailleurs.
Alors, on va parler du XXe siècle, mais je voudrais remonter encore un petit peu plus haut et vous poser la question que je posais à Michel Delon mardi dernier sur le XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui fait que c'est le XVIIIe siècle qui permet à Sade d'émerger, à cette littérature-là, d'être produite?
Alors, Sade profite en fait d'un arrière-fond du libertinage qui est quand même fascinant, qui est quand même très développé au XIXe siècle, la mort de Louis XIV, enfin avec tout le commencement de la Régence, Louis XV, il y a un développement d'une écriture libertine qui est partout.
Et qu'on peut pas expliquer comme ça facilement. Enfin, est-ce qu'on
trouve des... moi, je suis pas du tout historien de la littérature, mais tout bêtement, je vois là-dedans une sorte de relâchement après la fin du règne de Louis XIV, qui est quand même soumis à beaucoup de censure et de religiosité qui revient sur le devant de la scène.
C'est un retour de balancier.
Oui, et puis surtout l'espèce de liberté tout d'un coup que crée la disparition du monarque absolu. Il y a une sorte de moment de flottement du pouvoir avec la régence qui quand même ouvre à beaucoup de possibilités. Et puis il y a la personnalité de Louis XV aussi qui va autoriser tout cela. Je crois que ça bénéficie de ça et bénéficie surtout, je crois, et ça qui me semble vraiment le plus important, d'un moment de au moment où l'aristocratie est sur le point de disparaître comme classe. Mm-hmm. C'est-à-dire, où l'aristocratie n'a plus, finalement, pour soutenir sa position, de légitimité idéologique sérieuse. Et donc, dans cette espèce d'interrogation et de vertige qui constitue son pouvoir, au fond, elle est amenée à questionner son propre pouvoir et à tirer peut-être les conséquences, au fond, de cette domination qui est une domination représentant sur l'arbitraire et sur la jouissance. Mm-hmm. Et au fond, c'est ce que Klossowski va... Alors, j'arrive dans le XXe siècle déjà.
Bien sûr, allons-y justement.
Non, mais c'est comme ça que Klossowski lit les choses. Et je crois que c'est une lecture très fantasmatique, mais intéressante. L'aristocrate, jusque-là, a justifié sa domination par la loi naturelle, par Dieu, par toutes sortes d'alibis idéologiques qu'il a constitués, qui sont le fond de commerce, au fond de la domination féodale. Et puis, tout cela disparaît. Et à ce moment-là, l'aristocrate voit que c'est sa jouissance qui est réellement en jeu, une jouissance absolue et arbitraire. Et, en quelque sorte, la Révolution française, c'est le moment où en fait, selon Klossowski, une forme d'alliance entre l'aristocratie et le peuple, où tout d'un coup, l'aristocratie dit au peuple, voilà, mon pouvoir, ça n'est que ça, ce n'est qu'à ma jouissance, eh bien, participez-y. Et la Révolution française commence par le fait que l'aristocratie a décidé de ne plus, au fond, fonder son pouvoir sur, justement, une domination qui serait une domination morale, mais au contraire, une domination immorale. Et cette immoralité, ce dévoilement de l'immoralité même de la domination aristocratique qui, au fond, provoque la Révolution française et permet à Sade d'exister.
to slow of our 30,000 wheels. She sings all alone at the place where the time stands still. Dev, dev and lie, I could hear it in our minds. We forgot to go, and the silence carried on.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors pourquoi le XXe siècle a-t-il pris ça de sérieux, Éric Marty? C'est ce dont on parle aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous poser cette question au fond, et pourquoi avez-vous pris Sade pour finalement revisiter tout un pan de la pensée du XXe siècle? Vous auriez pu peut-être choisir un autre auteur, parce qu'au fond vous vous intéressez autant à Sade qu'aux auteurs qui parlent de Sade. Alors pourquoi lui est-il symptomatique? Pourquoi était-il plus intéressant qu'un autre?
Alors peut-être d'abord il y a le fait que ce livre est écrit au XXIe siècle, c'est-à-dire que il est écrit alors que le XXe siècle vient de se clore, et j'avais en fait envie d'écrire sur le XXe siècle aussi. Donc il y a dans cette question-là, c'est pas le thème du XXe siècle ne vient pas comme ça de manière seulement liée à ça. Il vient de ma propre position, et je crois d'une position générale d'intellectuels, des penseurs, sur ce qui vient de se passer sur le siècle qui s'achève.
Donc vous nous parlez du XXe siècle.
Voilà, c'était c'était quand même ça aussi. Et mais bon, ce qui évidemment le Sade ici comme emblème du XXe siècle, c'est un XXe siècle évidemment choisi. Je prétends pas évidemment.
C'est le court XXe siècle.
C'est un court XXe siècle qui en fait est limité à la seconde moitié du XXe siècle, même si ce qui précède est forcément inclus et imprègne ce second XXe siècle, qui est mon XXe siècle. Je ne prétends pas non plus dire tout le XXe siècle, évidemment, au travers de Sade, mais il me semble que Sade dit quelque chose d'essentiel de notre XXe siècle, en tout cas du mien, de celui que auquel j'ai participé.
Donc la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 80.
Voilà, et qui est un peu ambivalent, parce qu'il est découpé d'abord de la violence, en effet, d'un XXe siècle de la violence, de la destruction, mais je dirais aussi, surtout, d'un XXe siècle de l'intelligence et de la liberté.
Qu'est-ce que vous voulez dire par intelligence?
C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui m'a vraiment fasciné en faisant ce livre et en lisant alors depuis Bataille jusqu'à, disons, Pasolini, c'est l'incroyable effervescence de pensée que ça provoque. C'est-à-dire, ils prennent ça au sérieux, ça veut dire pour eux, il y a une sorte de pari de la pensée, d'un oser penser, d'une sorte d'affranchissement par rapport à beaucoup, beaucoup de limites, qui sont pas seulement celles du puritanisme ou de la pudibonderie, mais qui sont celles d'une sorte de limite de la pensée. Faut pas oublier que le XXe siècle est un siècle aussi du marxisme. Et Sade est, à mon avis, pour moi, aussi le moyen de s'extraire de ce qui est, au fond, le décor profond de tous ces penseurs-là. Qu'ils soient marxistes, comme l'a pu l'être Foucault quelques années, qu'ils ne le soient pas, comme Lacan ne l'est pas, par exemple. Néanmoins, ils sont tous entièrement déterminés par ce qui est leur horizon idéologique le plus profond.
Ça leur donne de l'air, d'une certaine façon.
Ça donne de l'air, et ça leur permet de repousser les limites de ce qui est leur, entre guillemets, prison, en tout cas leur cadre idéologique.
Et puis ça sort du social aussi, du questionnement sur les classes sociales.
Voilà. Et puis ça les sort d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au fond, ce que ça permet, c'est aussi de penser le statut de l'intellectuel au XXe siècle. Le XXe siècle, moi je pense par exemple à quelqu'un qui n'est pas du tout sadien, comme Althusser, pour qui au fond, évidemment, être intellectuel, ça veut dire prendre la position de la classe ouvrière, sortir de soi comme petit bourgeois et s'assumer comme intellectuel, comme penseur, comme développer la pensée dans son intensité la plus extrême, mais au travers de l'autre, au travers de la classe sociale qui devient en quelque sorte le vecteur de cette liberté et du fait que l'intellectuel peut s'assumer comme intellectuel sans être un individu isolé dans sa particularité la plus limitée. Voilà, ça c'est un destin. Mais au fond, ce destin, c'est quoi? C'est être membre du Parti communiste, c'est lire l'Humanité tous les jours, c'est au fond abandonner son rapport au désir et au plaisir. Et c'est en ça que vous avez raison. c'est que Sade permet justement d'inclure un autre enjeu dans, je dirais, l'élaboration par l'intellectuel de sa propre position, qui est précisément de faire du désir et la jouissance un des enjeux, finalement, par où l'intellectuel se construit lui-même comme intellectuel. Et Sade, pour ça, est un personnage qui est très important parce que, sans être évidemment un modèle, en tout cas, il autorise l'intellectuel à se penser comme tel via, justement, la question du désir.
Donc, on a évoqué tout à l'heure Apollinaire avec le premier extrait. On va pas tellement s'attarder sur cette figure-là parce que vous-même, vous avez choisi de ne pas le faire dans votre livre. On va commencer comme vous. En 1947, c'est une année fondatrice pour la relecture de Sade au XXe siècle. Pour quelle raison, Éric Martin?
Alors, c'est juste l'après-guerre. C'est absolument l'après-guerre et c'est... Et ce qui est fascinant là aussi, c'est que c'est très très vite, Sade sort. Vraiment, il est sorti déjà un petit peu avant avec Adorno et Horkheimer dont le livre La dialectique de la raison paraît en 47.
Où ces deux auteurs, philosophes allemands, considèrent que Sade préfigure le fascisme qu'ils ont connu pendant la Seconde Guerre mondiale.
Tout à fait. Et cela à partir, je dirais, de l'expérience concrète et réelle de ce qu'a été le fascisme, le nazisme, si on peut dire, puisque Adorno, qui donc a été expulsé, a quitté l'Allemagne après la prise de pouvoir par Hitler, a vu réellement ce qu'était le fascisme dans sa configuration organique, physique, esthétique, par les meetings, par les défilés, par rapport au corps aussi.
Et il y a trouvé du sadisme.
Ce qui est fascinant, c'est qu'il hallucine en quelque sorte dans le trauma. Vraiment un trauma qui a été pour Adorno ce spectacle d'une Allemagne nazifiée. Il y hallucine les portraits, les descriptions des orgies sadiennes, du rapport sadien au corps, d'une forme d'anonymat du désir, de la jouissance, de l'exultation. Il faut pas oublier quand même que Adorno dit le nazisme a été la passion fondamentale. C'est-à-dire qu'il a vu pas seulement l'horreur nazie, il a vu aussi ce qu'il y avait de libidinal, de profondément d'énergie dans le nazisme, cette énergie du désir. Et ce qui est, quand il, donc, expulsé d'Allemagne, il va aux États-Unis pour tenter de refonder l'école de Francfort et tout son travail. Il va lire, il a déjà commencé à le lire, mais il va lire beaucoup Sade. Et il va lire ça dans un double mouvement, à la fois du trauma récent de ce qu'est le nazisme, et puis la découverte du capitalisme moderne, américain.
Ah, parce qu'on peut aussi assimiler Sade avec le capitalisme libéral américain.
Le néolibéralisme, ça qui est assez troublant dans le double mouvement de la lecture sadienne de
Mais l'esthétique Lourneau. N'est pas la même quand même.
L'esthétique n'est pas la même, mais la disparition du sens de l'individu, la mobilisation, si on peut dire, le lien qu'il y a entre désir et collectivité et industrialisation des désirs est assez proche, au fond. Et ce qui est très étrange, c'est que Adorno pourra tout à fait comparer à la fois Auschwitz, si on peut dire, en tout cas, ses préfigurations avec Sade, que l'industrie culturelle américaine et que, au fond, les processus de collectivisation qui sont ceux du néolibéralisme.
C'est vrai qu'il y a quelque chose de sadien, par exemple, dans un film comme Le Loup de Wall Street, où on est dans l'orgie, où on est dans l'argent.
Tout à fait. Tout à fait. Et dans la spéculation, on veut dire le mettre de la spéculation.
Et dans le plaisir sans limite.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et de la fausse monnaie, au fond, qui est la fausse monnaie sadienne, où la jouissance naît à partir du rien, naît à partir justement d'elle-même, à partir de l'impératif de jouissance, qui est un impératif de jouissance qui est aussi, selon Adorno, l'un des impératifs justement de la société industrialo-culturelle des États-Unis des années qu'il découvre donc en Californie, qu'il découvre en Amérique à ce moment-là.
Alors on va continuer de tirer le fil de l'assimilation entre Sade et le fascisme, mais il faut quand même, pour replacer un petit peu le panorama général du XXe siècle, dire qu'il va y avoir d'autres interprétations que celle-là. La seconde grande interprétation, c'est celle des années 60. différentes. Elles sont, c'est une interprétation dominée par les analyses de Foucault. C'est aussi Lacan et Deleuze. Comment caractériser, alors là, à ce moment-là, l'autre pensée sur ça?
Alors, justement, pour la caractériser, je ferai une petite nuance à ce que j'ai dit sur Adorno. C'est-à-dire que Adorno, en effet, assimile Sade à un phénomène de domination de la violence, mais en même temps, il voit dans Sade un message positif, au sens où le pessimisme, ou le tragique, au fond, discours sadien est ce qui sauve en fait l'homme, puisque pour Adorno, au fond, tous les discours de l'humanisme de gauche sont des discours qui visent à camoufler le réel de la domination, et que justement Sade, en découvrant, en dévoilant le réel même de la domination, est celui qui sauve l'homme.
Bah, c'est toute la question de savoir où l'auteur Sade se situe par rapport à ce qu'il décrit et par rapport à ses personnages. Est-il avec eux ou est-il contre eux?
Alors justement, c'est là où on prend vraiment Sade au sérieux, c'est-à-dire qu'on s'intéresse pas justement à la personne de Sade, on s'intéresse au texte de Sade. Et depuis Adorno, c'est comme ça jusqu'à la fin, y compris même avec Pasolini.
Peu importe ce qu'il a fait lui-même de Sade.
Exactement. Et d'ailleurs, personnellement, la biographie de Sade est passionnante. Maintenant, les discussions autour de Sade, sans savoir si Sade était ceci ou cela, me paraissent toujours un peu faibles par rapport au texte même de Sade, qui est justement d'une totale logique et d'une grande puissance. Et donc, c'est en ça que ce qui va se passer, ce que vous indiquiez sur les années 60 est intéressant, c'est que dès Adorno, qui est pourtant une lecture très traumatique de Sade, il pointe qu'il y a dans cette violence de Sade quelque chose d'inespéré d'espérance dans les discours sadiens, précisément parce qu'il ne ment pas. Parce que Sade ne ment pas, et Sade, dans ce sens, nous délivre de toutes les fausses illusions que l'humanisme peut produire sur l'homme et sur la réalité des relations interhumaines.
Donc ça, c'est le deuxième moment, et il y a encore une troisième période qui va être agrégée autour du groupe de tel quel, Solers, Klossowski, Barthes, dont vous êtes un spécialiste, et là, ça n'est plus avec crainte et tremblement qu'on parle de Sade, on le considère comme un auteur qui peut aussi avoir, par exemple, de l'humour.
Tout à fait. Alors, ce qui est frappant, c'est que les grands lecteurs de Sade du XXe siècle, donc Klossowski, Bataille, Adorno, Blanchot, lisent Sade avec une sorte de fascination angoissée et une sorte de crispation assez fascinante. Alors que, en effet, je crois que quelque chose du XXe siècle se dit aussi dans la transformation du rapport à Sade, avec un rapport beaucoup plus, beaucoup moins crispé que celui-là. Et en effet, Lacan perçoit justement dans ce qu'il y a d'ambivalent dans le sérieux sadien, ce qui doit justement nous amener à avoir un rapport beaucoup moins angoissé par rapport à son texte.
Et en représentant de cette troisième période, Philippe Solers, ce qu'on écoute à présent en archive.
Le cas de Sade est exemplaire parce que justement, étant donné qu'il a mis l'accent sur un référent, en principe insupportable, qui est justement l'obscénité, le crime, le meurtre, et en tout cas la transgression sous toutes ses formes, ce référent a pris toute la place de son texte. Et si on change simplement le système de lecture, c'est-à-dire si on ne fait pas porter l'accent sur le référent, mais sur simplement le système sadien, on s'aperçoit qu'on peut très bien lire cela de sang-froid, n'est-ce pas? C'est-à-dire dans toute sa dimension, c'est-à-dire les textes les uns par rapport aux autres et l'ensemble des livres eux-mêmes. On a toujours parlé de ça selon une méthode qui consistait à lui prêter une pensée insupportable qui servait en général à faire condamner des pervers. Le nom de Sade est souvent cité dans les tribunaux, il l'est constamment dans les journaux. On ne s'est jamais rendu compte qu'il y avait un texte écrit. C'est-à-dire qu'on a construit une fiction qu'on appelle sadisme, sans jamais se rendre compte que cette fiction était faite à partir d'un texte. Il est tout de même extrêmement remarquable que deux des concepts essentiels qui fonctionnent dans les sciences humaines, comme celui de sadisme ou celui de masochisme, sont empruntés tous les deux à des œuvres littéraires, c'est-à-dire à celle de Sade et à celle de sa chère Masoch, l'une au XVIIIe, l'autre au XIXe siècle. Le fait qu'on ait pu construire, par exemple, l'entité sadomasochisme, ça, Deleuze le montre par exemple dans son livre sur Masoch, est une monstruosité, parce qu'on prend deux textes absolument inconciliables, l'un écrit au 18e, l'autre au 19e, ce qui prouve qu'on ne fait aucune analyse historique de la production de ces textes au moment où ils se produisent. On prend ces deux textes et on en tire une entité métaphysique qu'on appelle le sadisme, le masochisme ou le sadomasochisme. C'est donc dire, si vous voulez, que cette absence de lecture fondamentale du texte de Sade produit des effets terrifiants dans la pratique sociale quotidienne.
Compagnie des auteurs sur France Culture. Qu'est-ce que vous retenez de ce que disait en archive Philippe Solers, Éric Marty ?
Alors en fait, il me semble qu'ici, Solers vise quelqu'un directement dans... c'est Lacan. C'est Lacan qui par exemple, lui, défend l'idée d'un sadomasochisme. Il défend l'idée qu'au fond, Sade, il donne comme preuve de cela tous les malheurs de Sade. Le fait que Sade était tellement en prison montre bien qu'il y a derrière son sadisme, entre guillemets, un masochisme réel, puisqu'il s'est puni lui-même en acceptant et en finalement en se soumettant assez facilement à la punition.
Oh, pas tant que ça, je crois qu'il aurait bien voulu sortir quand même.
Oui, oui, enfin, moi je défends pas du tout le... Je tente d'expliquer ce qui vise Solaire. C'est donc Lacan qui voit, en fait, dans la personne de Sade lui-même, quelqu'un qui n'est pas à l'abri d'un masochisme, dont la preuve serait sa facilité à, et en fond, le fait qu'il ait passé tellement de temps à être puni. Et dans son rapport avec sa belle-mère, qui est la principale accusatrice et la principale responsable de ses malheurs, il y a quelque chose qu'on pourrait trouver d'ambivalent. Hein. Je n'ai pas ma position, mais c'est en tout cas ce que Lacan dit. Et puis surtout, il dit qu'au fond, la jouissance sadique elle-même est masochiste, au sens où ce que le sadique est au fond au service d'un autre que lui-même. Il est au service de la jouissance phallique, et qui n'est pas forcément sa propre jouissance. Et en ce sens, la jouissance du sujet sadique n'est pas si évidente que ça, n'est pas si simple que ça. Elle est elle est perturbée elle-même par sa dévotion à une sorte de dieu obscur qui est le phallus. Et le sadique n'est pas au final un vrai jouisseur. Donc il y a un masochisme. Donc voilà, il me semble que c'est ça que Solaire s'attaquait.
Enfin, toujours est-il que à la fois Solaire comme Lacan prennent donc très au sérieux Sade, puisqu'ils en tirent des théories, des
Tout
conséquences, alors que l'arrivée dans le champ de Pasolini et de son film « Salo, les 120 jours de Sodome va, d'une certaine manière, poser comme une ombre sur cette pensée-là, parce que c'est un film qui va choquer énormément. On en écoute un tout petit extrait.
« Faible créature enchaînée, destinée à notre plaisir, j'espère que vous ne vous attendez pas à trouver la liberté ridicule que vous concède le monde extérieur. Ici, vous êtes hors des limites de toute légalité. » Personne sur Terre ne sait que vous êtes ici. Pour le monde, vous êtes déjà mort. Écoutez le règlement qui régira maintenant votre vie.
Alors ce film, c'est 1975. Il fait grand bruit, il vient percuter peut-être un petit peu toute cette pensée autour de Sade et revenir pour enfoncer le clou d'un Sade, cette fois réellement fasciste.
Oui, alors... En fait, tous les auteurs dont je parle ont travaillé beaucoup, sauf peut-être Lacan, mais ont travaillé beaucoup à distinguer Sade de toute référence au fascisme. Même opération d'ailleurs pour Nietzsche, hein, c'est la même chose. Il s'agit de sauver deux figures, d'écarter toute imprégnation, toute confusion avec le nazisme. Et évidemment, là.
Pourquoi veut-on sauver Sade à ce point-là ?
Pour justement en faire un modèle d'émancipateur. Et c'est Klosowski et Bataille qui commencent, et Blanchot, qui vont commencer à mettre ça en place. Il s'agit justement de sauver ça de toute confusion, de toute ambiguïté nazie. Et Bataille surtout sera le premier à le faire et le plus militant pour ça, avec une théorie tout à fait intéressante en disant, au fond, le bourreau ne dit jamais la violence qu'il commet. Le bourreau est toujours dans l'alibi par lequel il va justifier sa violence en tenant un discours du bien.
Donc si on parle de violence, coup, ça veut dire qu'on ne peut pas être
coup,
un bourreau.
Voilà. Du coup, Sade, en disant la violence, ne peut pas être du côté du bourreau. Il ne peut être que du côté de la victime, en fait. Mmh. Paradoxe très typique de la pensée moderne. Série de renversements logiques qui visent à créer une sorte d'effroi de la pensée. Et en effet, pour Bataille, ça est donc du côté du bourreau, de la victime. Voilà. Donc, il y a vraiment un travail très intense, très prémédité, très sophistiqué pour écarter toute confusion entre Sade et le nazisme. Cette confusion qui avait été faite dès après la Seconde Guerre mondiale, en voyant dans Auschwitz, dans les fameux abat-jour faits de la peau tatouée des victimes, en voyant là-dedans tout ça, eh bien, le spectacle même du sadisme. Oui. Eh bien non, il faut absolument garder ça. Et, bizarrement, 75, en effet, retour complet d'une sorte de fusion, de confusion de l'imagerie sadienne et de l'imagerie nazie, parce que c'est ce que fait absolument Pasolini. Les orgies, les scènes de torture sont des scènes tirées des 120 jours de Sodome, mais elles sont faites par des maîtres qui sont en uniforme SS.
Et c'est explicite d'ailleurs, ça se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans la République de Salo.
Donc, là, quelque chose de très, qui désempare beaucoup. Et on aura trois réactions au film. Il y aura celle de Barthes, de Foucault et de Deleuze de manière moins publique, mais dans Image Mouvement, il critique tout de même le Salo de Pasolini en valorisant Théorème contre Salo. Hein. Ouais. Mais il y aura des réactions non négatives. Aussi bien Foucault et Barthes vont en tout cas de manière publique critiquer le Salo. Il ne faut absolument pas qu'il y ait cette confusion-là.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Éric Marty, on va continuer à évoquer avec vous la manière dont les penseurs du XXe siècle ont lu le Marquis de Sade, juste après le point de vue sur Sade, toujours de Bruno Blankmann. Bruno Blankmann, professeur de littérature contemporaine à l'Université Paris 3 et qui est notre chroniqueur du jeudi pour aujourd'hui. Bonjour Bruno Blankmann.
Bonjour Mathieu.
Alors, comment vous-même avez-vous lu Sade dans la perspective qui est un petit peu celle d'Éric Marty? Quel est votre point de vue finalement sur la manière dont Sade a traversé le XXe et sur la manière dont il ouvre aussi peut-être le XXIe siècle?
Oui, mes paroles vont s'inscrire dans la continuité de celle d'Éric Marty. C'est effectivement le XXe siècle qui a réhabilité, redécouvert et par là même inventé ou réinventé Sade en le tirant des ténèbres, en le tirant des enfers de la bibliothèque. Et surtout en un certain XXe siècle qui a vu en lui non plus un monstre mais un modèle pour des raisons variables. Alors ça a commencé effectivement de manière ténue dès la première moitié du XXe siècle avec les surréalistes par exemple. Hein. Donc un modèle de subversion et bien sûr cela explose avec toute cette génération d'écrivains, pour m'en tenir aux seuls écrivains, qui précèdent, accompagnent et succèdent à mai 68. Hein. On peut penser à des œuvres comme celle de Tony Duvert par exemple, l'œuvre gigantesque de Pierre Guyotat aussi, ou encore ce qu'a pu écrire un Bernard Noël. Et ça va durer jusqu'aux portes du XXIe siècle. L'exemple qu'on pourrait donner, c'est celui d'Hervé Guibert, qui écrit un roman intitulé « Vous m'avez fait former des fantômes », qui est vraiment une espèce de glose et d'appropriation de l'univers sadien.
Hervé Guibert est sadien.
Oui, avec pour titre une phrase tirée de la correspondance de Sade à l'adresse de son épouse. Donc, y a cette dynamique-là, et toute la question est de savoir si le XXIe siècle ne va pas être le siècle qui enterre Sade une seconde fois. Alors, pour différentes raisons.
Justement, Bruno Blankmann, pour quelles raisons est-ce qu'on pourrait penser que cela pourrait arriver ?
Bah, d'une part, je pense que la grande arme, la grande ressource de Sade, c'était la pornographie. Et plus que la pornographie, c'est-à-dire plus que l'écriture, plus que la description des corps, c'était une sorte de pornocratie, un pouvoir par la domination sexuelle. Et bien sûr, alors c'était là son coup de force, hein, c'était là son coup de génie. On peut se demander si cela fait encore sens à une époque qui est somme toute assez récente, ça date du milieu des années 1970, où le statut de la pornographie est tout autre, hein, où finalement ce qui était un ressort et une ressource de subversion pour un intellectuel et un écrivain à l'âge des Lumières n'est pas devenu une sorte d'industrie, c'est devenu une sorte d'industrie de consommation très 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 prospère. Et donc la scène sexuelle qui s'exhibe, on ne peut plus dans la répétition sur tous les écrans. Est-ce que elle ne fait pas en quelque sorte bâiller un certain nombre de personnes là où elle faisait brailler d'indignation et en même temps de contentement refoulé les contemporains de Sade lui-même.
Hein. Et en même temps, Sade du coup acquiert un caractère extrêmement subversif aussi, et on a l'impression que autant la consommation de la pornographie, ouais, sur Internet relève de la consommation, autant Sade est illisible. Ça ne vous étonne pas, ça, Bruno Blankmann ?
Non, pas vraiment, parce que finalement, ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, on l'a dit, hein, c'est que Sartre était vraiment le contemporain des grands intellectuels des Lumières, et il était l'homme d'un monde dans lequel la parole du philosophe et ses écrits prévalaient. Et dans la construction de l'histoire des idées, de l'histoire aussi politique de notre pays, cet âge des Lumières, dominé par la figure du philosophe, alors qui n'avait pas tout à fait le même sens qu'aujourd'hui, mais enfin c'était un sens proche, par cette figure de l'intellectuel impliqué dans le combat, l'intellectuel des Lumières, justement l'intérêt de Sade, c'était qu'il s'appropriait leur terrain pour le subvertir pleinement, pour inventer un univers qui était un univers de la domination des uns par les autres, les plus habiles, les plus experts, les plus rhéteurs. Forcément, aujourd'hui, le statut du philosophe, le statut de l'intellectuel, on peut le déplorer, mais c'est un fait, n'est plus aussi central, ouais, surexposé. Hein. Si Sade est celui qui a fait glisser, c'est aussi un de ses grands apports, la philosophie des salons dans le boudoir, aujourd'hui, la philosophie est-elle encore dans les boudoirs ? Elle serait plutôt dans le placard.
Ouais. Un mot peut-être, mais très rapidement, sur un spectacle qui n'est pas complètement éloigné, hein, de ce que vous venez de dire, oui, et que vous voulez proposer aux auditeurs, parce que vous l'avez vu, je crois, c'est Les Idoles de Christophe Honoré à l'Odéon, Bruno Blankmann.
Oui, à l'Odéon et dans une tournée nationale et internationale, je crois. Alors c'est un spectacle à voir, un très très beau spectacle spectral, on pourrait dire, c'est-à-dire que ce sont des grands noms, là encore, des grandes figures de la création qui sont invitées sur la scène et ressuscitées, elles sont invitées depuis le pays des morts, c'est pour ça que ce spectacle est spectral. Alors, il y a Bernard-Marie Coltès, il y a Hervé Guibert,
tous morts du sida.
Il y a Serge Danet, voilà, il y a Jean-Luc Lagarce, autant de créateurs de la fin du XXe siècle qui sont morts du sida. Et le spectacle se construit non pas paradoxalement, puisqu'il est une vie après la mort et c'est celle justement de la littérature, et c'est ce qu'entend faire passer ce spectacle, il y a des échanges autour d'un certain nombre de questions qui peuvent encore nous concerner. Par exemple, fallait-il en parler ? ces grands noms qui avaient le sida à leur époque, fallait-il en parler ou fallait-il le taire ? Mm-hmm. Par rapport même à leur champ d'activité, les avis divergeaient. Donc voilà, c'est un spectacle de la belle mémoire, tout comme Christophe Honoré a été le cinéaste de la belle personne, eh bien ce sont de beaux personnages, de grands personnages qu'il met en scène dans ce spectacle.
Merci beaucoup Bruno Blankmann pour ce conseil et aussi votre analyse de Sade. À très bientôt. On continue de parler de Sade et de sa réception par les intellectuels tout au long du XXe siècle. Nous sommes pour ce faire avec l'universitaire et écrivain Éric Marty, auteur du livre « Pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sade au sérieux ?» Et parmi ceux qui l'ont pris au sérieux, il y a le philosophe Michel Foucault.
Que serait, après tout, un langage qui ne serait que transparence ? Un langage sans cases sombres ? Ce serait un langage absolu, un langage impossible, en droit et en fait. À la fois une chimère et un scandale, une pure transgression. Or, il est étrange que ce fantasme soit apparu exactement au seuil de la littérature moderne et que, sous deux formes antithétiques, il ait occupé pratiquement toute la fin du XVIIIe siècle. Avec Rousseau, c'est le fantasme d'un langage entièrement transparent à l'innocence. Avec Sade, c'est le fantasme d'un langage entièrement transparent à ce qui, au contraire, ne peut pas, ne doit pas être nommé. On peut dire que la chimère d'un langage sans point aveugle, d'un langage sans grille, a constitué, depuis le XVIIIe siècle, le projet de toute littérature. Mais au XVIIIe siècle, ce projet ne pouvait former que des expériences limites. Sade n'a pu effacer les grilles du langage. Sade n'a pu constituer un langage sans ombre, un langage entièrement lumineux, que dans une expérience périlleuse où ce fut sa propre existence, son existence à lui, qui fut emprisonnée.
Michel Foucault, au cours de l'émission La liberté coupable en 1964, Michel Foucault qui a été un grand passionné de Sade, Éric Marty, je crois qu'il faut revenir un peu plus précisément qu'on ne l'a fait jusque-là sur la figure de ce philosophe, ne serait-ce que parce que il a écrit ce livre, Histoire de la folie à l'âge classique, et que Sade lui-même a été considéré comme fou, en tout cas enfermé dans un asile d'aliénés. Et forcément, il a dû y avoir pour Foucault une résonance ici très forte. Alors, que peut-on dire sur la lecture? Il y en a deux, hein, parce qu'il va évoluer Foucault sur son rapport à Sade, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur son premier mouvement de jeunesse, disons, par rapport à cet écrivain?
Oui, alors c'est un discours incandescent de Foucault sur Sade, un discours de fascination qui est beaucoup imprégné de Blanchot et de Bataille, et qui est essentiellement marqué par ce qu'on vient d'entendre, à savoir le lien à l'écriture, le lien à l'anonymat, le lien à la souveraineté, à toutes ces notions-là, mais surtout en effet, c'est articulé à la question de la folie que Foucault fait de Sade une figure emblématique, très puissante, dans une opposition qu'on a entendue là avec Rousseau, justement. Et avec Rousseau qui, jusque-là, était précisément l'écrivain de la folie. Et tout le travail de Foucault, c'est d'éliminer Rousseau pour y substituer la figure de Sade comme la vraie figure puissante qui peut, en effet, avoir cette place si importante dans l'histoire de la folie. Pourquoi ? Parce que, justement, Sade est celui qui résiste au regard de l'aliéniste. Sade est celui qui résiste, justement, aux symptômes de la folie. Sade est celui qui conserve la puissance de la déraison en tant qu'elle est la véritable liberté, justement, de ce qu'on appelle la folie, mais mot qui est absolument refusé par Foucault comme stigmate psychiatrique, comme stigmate médical par lequel on expulse justement du sujet toute la potentialité, toute l'infini, tout ce murmure immémorial, tout ce silence, toute cette grandeur, cet infini donc dont on vient de parler.
Donc c'est Sade comme une figure pure de la contestation.
C'est ça.
À ce moment-là, en tous les cas.
Voilà.
Et puis, plus tard, alors en 1975, c'est aussi une date très importante, hein, parce
Absolument.
Que c'est la sortie du film Salo dont on parlait tout à l'heure. Foucault va réviser son jugement.
Il va carrément abjurer Sade. Et alors là, c'est intéressant parce que ça rejoint absolument ce que disait Bruno Blankmann à l'instant. C'est qu'en réalité, on pourrait dire, et c'est un peu dur pour Foucault, mais qu'il annonce justement l'effacement de Sade d'aujourd'hui. Mm-hmm. Au travers de deux choses. Effacement de la littérature n'est plus intéressante. La littérature n'est plus le support pour Foucault d'un espace de vraie transgression. La littérature n'est plus,
Pourquoi ?
N'est plus rien. Parce qu'elle est au fond l'arme de l'individu, l'arme de la subjectivité, et que c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les discours anonymes, c'est l'archive, c'est les processus collectifs, c'est les phénomènes justement sociaux qui sont...
C'est le réel davantage.
C'est le réel, voilà, le réel. Et la littérature est pour cela en fait quelque chose de totalement marginal, qui n'a plus d'intérêt, d'où la rupture que Foucault fait, pas seulement avec Sade, alors Sade est un exemple tout à fait frappant de rupture, mais avec la littérature en général. Et pour rebondir sur ce que c'est le point de Blankmann, je dirais qu'en effet, Sade n'est plus audible aujourd'hui parce que il est la littérature, c'est-à-dire, au fond, le mal, ou la violence, ou la pornographie qui serait assumée par une subjectivité. Et ça, c'est devenu insupportable. On est dans un monde d'hyperviolence, en un monde d'hyperpornographie, mais il ne faut pas que cette hyperviolence et cette hyperpornographie soient assumées par un sujet. Il faut que ça reste comme un processus, je dirais, précisément réel, comme Foucault, justement, l'entend, et non plus, justement, pris dans une esthétique, pris dans un individu, pris dans un principe aristocratique, élitiste et esthétique de l'individu. D'où le fait qu'en effet, ça a été balancé par Foucault de manière très, très explicite.
Vous le mettez en accusation, là, Foucault
Non, je dirais que Foucault... Alors, Foucault, à la fois, oui, moi, je serai en désaccord avec la position de Foucault, mais je dirais qu'en même temps, il est très intelligent, très lucide. Il annonce, au fond, le 21e siècle. Foucault annonce vraiment, et c'est en ça qu'il est un vrai moderne, plus moderne, au fond, que ses compagnons qui ont été, au fond, des romantiques. C'est le mot qu'il emploie parfois pour s'en moquer. Lacan, Barthes, tout ça, Klosowski, ce sont des romantiques, au fond. Et lui est un vrai moderne au sens où il se débarrasse de ce romantisme qui est encore attaché et que Sade incarne parfaitement, romantisme noir, que Sade d'ailleurs, même historiquement, préfigure ou marque dans ses liens avec le roman noir, le roman gothique, etc. Donc, il y a quelque chose de très... Moi, je suis assez fasciné par Foucault et impressionné à la fois par son adhésion...
C'est peut-être lui aussi qui crée en partie la modernité, parce qu'on sait que Foucault a eu une influence très importante sur l'université américaine.
Tout à fait.
Et que les idées qui nous reviennent depuis une dizaine ou une quinzaine d'années viennent en grande partie de l'université américaine, elle-même inspirée par ces théories françaises des années 70.
Tout à fait.
Donc plutôt qu'une préscience, peut-être qu'il est aussi l'un des instigateurs de ce que vous dites.
Alors oui, alors tout à fait, il est... Ça, c'est assez frappant, et tout le discours actuellement de la des gender et compagnie sont très inspirés par Foucault, mais au fond, quand on lit Baudelaire, par exemple, on s'aperçoit que Foucault est encore trop romantique lui-même. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il a, au fond, Foucault a donné toutes les armes pour détruire, au fond, ce qu'a été la modernité française, en l'accusant justement de cette espèce d'esthétisme, de subjectivité, de romantisme. Mais Baudelaire, finalement, tout en s'emparant de beaucoup du trésor foucauldien, eh bien, met Foucault dans une sorte de même sac. Donc, il n'a pas beaucoup gagné, au fond, à cette espèce de trahison, entre guillemets, de son propre monde, de sa propre communauté, en devenant, au fond, un penseur post-européen. C'est comme ça que je vois le Foucault dernier. Penseur post-européen, post-moderne aussi, d'une certaine manière. Et, mais en effet, vous avez tout à fait raison.
Et est-ce qu'on peut aller jusqu'à une analyse, alors là, on va peut-être plus loin que ce que vous souhaiteriez, du mouvement MeToo, par exemple, ou de l'affaire DSK. Est-ce que ça peut rentrer dans votre schéma? Est-ce que vous auriez pu faire un chapitre de plus sur le 21e siècle à partir de ces éléments-là, Éric Marty?
Oui, mais alors c'est là justement où Foucault reste malgré tout complètement dans les schémas malgré tout de son propre camp, de sa propre communauté, ses contemporains, au sens où ça lui échappe au fond. Le phénomène de coupure avec ce qu'a été la modernité par l'actuelle université américaine, par le gender, c'est à la fois reprendre la puissance de décryptage, d'analyse des processus et de la place du sexe, par exemple, dans la société, l'invention du sexe, toutes ces questions-là, tout ce que Foucault a mis en place dans la volonté de savoir, sur l'idée qu'au fond, le sexe était une invention occidentale, par exemple. Mm-hmm. Hein, c'est des choses que reprennent beaucoup les genders, mais en même temps, évidemment, les genders sont aussi marqués par un moralisme et un puritanisme typiquement américain.
Qui n'était pas foucauldien.
Qui n'est pas du tout foucauldien. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui viennent en commun autour de l'idée d'une désexualisation, l'idée de la manière dont Foucault, au fond, fait du sexe une sorte de mythologie moderne et dont il faut se débarrasser, qui est très encombrante. Mais ça, traduit par le puritain, ça devient quelque chose d'effrayant, ça devient en effet des accusations de viol, d'accusations de tout le discours très accusatoire par rapport à la sexualité qui est contemporain. Donc en ce sens, Foucault est un peu dépassé par sa propre démarche, je dirais, critique à l'égard de son propre discours.
Il nous reste quelques minutes, Éric Marty, pour parler de votre favori, de votre chouchou, Roland Barthes. Ce serait dommage de ne pas l'évoquer. Et sur la notion de délicatesse, on n'a pas le temps de passer malheureusement l'extrait qui aurait introduit cette séquence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le point de vue de Barthes sur Sade ?
Oui, alors Barthes participe complètement à tout ce mouvement qui, au fond, la création d'un nouveau sujet qu'on pourrait appeler le sujet pervers. Au fond, la grande idée des modernes, c'est que nous sommes dans le monde du sens commun, nous sommes dans le monde du stéréotype, nous sommes dans le monde de la mythologie petite bourgeoise, et qu'il n'y a pas d'issue. Le marxisme, l'émancipation, la révolution, tout ça, ce sont en effet des sortes d'horizons possibles, mais l'issue subjective, ça ne peut être que par la création d'une nouvelle subjectivité. Or, le modèle subjectif le plus capable de rompre avec le sens commun, de rompre avec le stéréotype, c'est le sujet pervers.
Mmh. Et donc, en gros, le pervers est anti-kitsch, anti-bourgeois, voilà. Et il nous permet de nous libérer.
De nous enfermer, peu importe, en tout cas de quitter cette espèce d'univers du sens commun qu'est l'univers, au fond, de la France des années 60, 70 et au-delà. Et donc, le sujet pervers est un sujet qui rompt avec tous les accommodements, toutes les compromissions, et permet de renverser toutes les pensées, y compris justement la délicatesse. Alors, la délicatesse, en cette occasion, c'est celle de Sade. Sade invente une nouvelle qualité de la délicatesse qui n'est plus justement la délicatesse petite bourgeoise qui vise à ne pas heurter, à être doux, etc. Mm-hmm. Non, c'est une délicatesse très très corrosive. C'est la délicatesse de celui qui prête à sa femme qui va prendre le linge souillé de Sade pour le nettoyer.
Et avec Sade, une sorte de jouissance.
Voilà, et ouais. Ça projette sur cet acte tout à fait conjugal et familial même de Madame de Sade une délicatesse sadienne, c'est-à-dire donc un principe où l'érotisation du monde est totale. Et donc, si tout est érotique, tout est érotisé, à ce moment-là, on trouve en effet des principes de délicatesse, de subtilité dans la manière de voir le monde, de projeter son propre plaisir, désir sur les choses les plus quotidiennes, quelque chose d'absolument inouï.
En même temps, la pauvre Madame Sade, à la fin, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nettoie les chaussettes de son mari.
Voilà, elle est Madame de Sade. Mishima a fait une pièce magnifique qui s'appelle Madame de Sade. On n'a pas assez pensé à elle. C'est un personnage tout à fait fascinant aussi par sa fidélité, au fond, à Sade. Et la correspondance et les lettres de Sade à sa femme sont des lettres absolument magnifiques. En effet,
une vie très dure quand même pour elle aussi.
Une vie très dure, mais en même temps, elle a connu quand même un être tout à fait fascinant, extraordinaire. Elle a été la femme du marquis.
Donc, Barthes sadien, on peut le dire.
Barthes sadien, pas du tout sadique. Il n'y a aucune dimension perverse au sens ordinaire du terme. C'est en ça, quand je parle de sujet pervers, c'est vraiment pas du tout au sens psychiatrique, c'est au sens métaphysique que ce sujet pervers peut apparaître. Et donc, en effet, il y a sadisme et il y a le sadien. C'est pas la même chose. Barthes est sadien, pas sadique.
Merci beaucoup, Éric Marty. Et pour aller plus loin, je conseille à nos auditeurs la lecture de votre livre « Pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sade au sérieux ?» paru en 2011 au Seuil dans la collection Fiction et compagnie et toujours disponible. Cette émission n'aurait pas pu avoir lieu sans Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin et Dalia Yara. Demain, vous retrouvez la compagnie des poètes avec Manu Farine. Nous, on parlera d'Ilfried Jelinek lundi, mardi et mercredi de la semaine prochaine. Alors que jeudi, nous vous proposerons de prendre du recul sur le livre de Michel Houellebecq, Sérotonine. Mais tout de suite, vous retrouvez la poésie sur France Culture avec les textes choisis et commentés par Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour la compagnie. On retrouve Patrick Lopin, vous savez, l'auteur de « Le dernier avenir » à la rumeur libre, ou « L'homme imprononçable », celui qui réfléchit à voix haute en même temps qu'il balade ses crayons. Par exemple, il se demande si l'irréel de la poésie n'est pas plus réel, n'est pas plus vrai que l'invraisemblable qui nous compose, nous entoure chaque jour. C'est mieux dit, dans quel état de corps et de rêve faut-il être pour se sentir vraiment vivant? Et qu'est-ce que je sais de la poésie? Je ne sais jamais au juste ce qu'elle est. Et en ouverture de l'homme imprononçable, je voudrais que s'entende comment la violence historique rentre dans les corps, crée en chacun une parole non parlée, un soliloque muet. D'ordinaire, la poésie arrive à ça par des abréviations fabuleuses et des synthèses de foudre donnant à lire toute la structure du langage en abîme. J'entends une poésie qui ne trahisse pas la réalité. J'imagine un théâtre, simple odyssée sous les arbres, solitaire, tacite ou social, où l'auditeur soit dans la position d'entendre ce qu'il écoute, comme s'il ne l'avait jamais encore entendu prononcer, bien que vivant de tout temps de ce débordement concentré de sa propre énergie singulière. Ou soit des adresses, des voix, un lieu de la parole en soi pour qu'elle puisse exister. Sans quoi, le tragique de la folie le prouve, l'homme est un être donné pour le néant et la disparition. Oula ! Alors pour se rassurer, on va chercher des petits morceaux ailleurs, dans Impasse de l'Azur. Je crois que ma petite étude du style, ces écoles païennes, c'est le cul des vaches, les moucherons sur la vitre et les vignes, les pistes de neige sales, les napperons pauvrés dans la bicoque, le bleu d'astre en ruine des chardons, la sauge et la mélisse. Quand il n'y aura plus de chemin d'herbe sous les arbres, ça c'est un avertissement que je prends très au sérieux. Parce qu'il y en a marre de la suppression des chemins, des ruisseaux sans histoire ou des bas-côtés mal cotés, puis des haies aussi. Il faut qu'on en parle, bon Dieu, c'est pas possible cette chose. Quand il n'y aura plus de chemin d'herbe sous les arbres, il n'y aura plus d'écriture. Où irons-nous vraiment? Verrons-nous des soldes du paradis les dimanches? Des cabarets à l'enseigne de l'antique poésie? Je sais, ce ne sont que des préparatifs d'embarcadère. On nous prie bien d'attendre un peu. On peut rêver encore, mais le trouble est sûr. Voilà, ça c'est le poète, c'est un peu l'histoire du gars qui avait des choses concrètes à dire et puis qui s'embarque dans ses images, ses grandes vues, c'est ça le poète. Il y a pas de résultat immédiat, il est pas un partisan du solutionnisme quoi. J'écris pour donner du fil à retordre à ma folie, à la parole sonore de la légende, au grand appareil de la terre qui fait clameur, blocus sentimental. Je me tais, quelqu'un appelle. On se venge en se taisant. Je suis encore à la recherche de ce pays. Je scrute ses vertiges. J'écoute le prolongement d'une note éteinte. Les escaliers qui montent ne vont nulle part.
Merci Jacques Bonafé. Vous nous lisiez cette semaine des œuvres de Patrick Lopin.